On est vraiment content. Je suis vraiment content d'être présent avec vous ici ce matin. 24 décembre, préparation de Noël. Qui a un party ce soir? Donc, bon temps des fêtes et prenons un temps ensemble pour nous rappeler, réfléchir un petit peu ce matin. C'est un peu le but. C'est qu'on s'en va fêter Noël. Vous savez ce que ça veut dire, Noël? Nativité. Ça veut dire qu'on va fêter une naissance. On va fêter une naissance qui est spéciale, une naissance qui est exceptionnelle. Et ce matin, un peu, mon objectif, c'est simplement qu'on puisse regarder et répondre à la question ensemble. Puis, vous allez le voir si mon PowerPoint s'affiche. J'aimerais qu'on se pose la question ensemble. Qui est celui-ci? C'est qui le Seigneur Jésus? Et pourquoi est-ce que, un, sa naissance est exceptionnelle, mais deux aussi, sa vie? Qu'est-ce que ça change? Parce que pour nous, aujourd'hui, on est rendu 2023, presque 2024. Quand on parle de Jésus, on utilise tout le même terme, hein? On dit tout Jésus-Christ. Hein? Mais pas tout le monde, là. Et puis, c'est tellement un mot qui est commun que dans notre monde, là, c'est rendu un sacre. Hein? Vous vous promenez, vous rencontrez quelqu'un, il n'est pas content. Il dit le nom de Seigneur deux, trois fois avec d'autres mots. Et puis là, on est tellement habitué de l'entendre que parfois on oublie que c'est pas son nom. Hein? Le Seigneur Jésus. Nous, on l'appelle le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, le Christ? Le Messie loin. Donc, dans notre vie de tous les jours, on n'arrête pas de déclarer que Jésus est le Messie. Et puis, honnêtement, si on revient dans le temps de Jésus, dire ça, je pense que tu te faisais lancer des roches. C'est une des raisons pour laquelle, ce matin, j'aimerais qu'on prenne un temps pour... Eh boy, quel piton j'appuie là-dessus? OK. On va faire un petit survol pour se mettre, vous savez comment j'aime ça, faire un petit setup. On va regarder les idées messianiques, ça veut dire quoi? C'était quoi que les gens pensaient quand on disait le Messie dans le temps de Jésus? OK? On va regarder ensuite à quel point cet événement-là, c'est un point tournant, culminant, inconcevable dans l'histoire de la rédemption humaine. Parce que c'est pas juste un bébé qui est né, c'est un plan je vais essayer de regarder sans être trop technique puis vous endormir parce que c'est quand même le 24 décembre. Donc, on va essayer de regarder à quel point c'est quelque chose qui était annoncé, prévisible et qui était impossible même d'essayer de remplir par nous-mêmes. T'sais, les hommes n'auraient pas pu essayer de faire ça. Donc, on va prendre le temps de regarder à quel point cette nouvelle alliance-là, elle est spéciale. Et puis qu'elle est ancrée dans les pensées de l'Ancien Testament. Et après ça, on va regarder l'impact. À quel point ça a eu un impact à plusieurs niveaux. Ça a eu un impact terrestre, ça a eu un impact cosmique, ça a eu un impact salutaire. Et ça a changé toute la vision qu'on peut avoir du salut, de Dieu même en tant que tel. Donc, ce matin, pour vrai... ça fait deux semaines que je me prépare, et puis j'ai regardé ma feuille ce matin, puis j'ai fait, ouf, il y a du stock. Ça se peut que je parle vite, ou qu'on finisse tard. Mais non, c'est pas vrai. On va aller vite. Donc, j'aimerais vous parler de les idées au temps de Jésus, vous. Parce que vous savez, nous, aujourd'hui, quand on entend Messie, comme je disais, on entend le Christ, on entend le Messie, on entend Jésus. On a 2000 ans d'histoire. Et puis, avez-vous déjà entendu parler de la révélation progressive dans la Bible? C'est l'idée par laquelle, dépendant on se situe où dans la période de temps, on a accès à plus ou moins d'informations. Donc, si je vous parle d'Abraham dans l'Ancien Testament, par l'idée de révélation progressive, Abraham n'a pas accès à aucun des prophètes, il n'a même pas accès à la Torah, il n'a pas la Genèse, il n'a pas les prophètes, il n'a pas les écrits, il n'a pas le Nouveau Testament, il ne sait pas c'est qui Jésus. Donc, les actions et les décisions d'Abraham sont centrés sur ce que lui peut avoir entendu. Ce qui est une communion directe, c'est des choses qui sont transmises oralement. Mais si on se prend, nous, aujourd'hui, 2024, on a la Bible, les écrits, 250 000 ouvrages théologiques qui peuvent essayer d'expliquer la Bible. On a accès à plein de choses. Donc, révélation progressive, on a beaucoup plus d'informations, plus facile de se trouver ou de se faire une idée. Alors, on va essayer de se mettre dans le temps de Jésus. Et dans le temps où Jésus est né, premièrement, on sort pour se donner une idée, ça fait 400 ans qu'il n'y a pas eu aucun prophète. Depuis le prophète Michée, ça fait 400 ans qu'ils n'ont pas de prophète pour leur annoncer la parole du Seigneur. Okay? Il n'y a pas eu de nouvelles révélations. Le Seigneur parle pas à son peuple d'une façon directe, distincte. On est vraiment dans un « qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? » Et ça a amené quelques idées, surtout concernant le Messie. Okay? Et on va en regarder quelques-unes, je vais les afficher. Est-ce que c'est lisible dans l'arrière? On m'a dit de pas aller plus bas que 28, c'est écrit en 32. Donc, j'ai fait mon possible. Oups. OK. Donc, j'ai mis des mots compliqués au tableau, mais je vais vous les expliquer facilement. Donc, quand on parle de Messie, on va regarder ensemble, il y a plusieurs prophéties qui sont faites dans l'Ancien Testament concernant le Messie. Il y a plusieurs alliances qui sont faites, des choses qui ont été dites ou enseignées. Et un premier point, dans le fond, c'était que le Messie allait être la continuité du roi David. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le Messie venait pour régner. Il venait pour être le roi de son peuple, prendre son peuple et le conduire vers un temps de prospérité. Et pour faire ça, Dieu avait promis dans 2 Samuel au chapitre 7, il avait promis à David, quand David veut construire le temple, il dit non, pas toi, mais ta descendance. Mais parce que tu es un homme selon mon cœur, sache que ta descendance sera pour toujours et à perpétuité sur le trône. Donc, on voit aussi que Dieu a protégé la lignée de David. Et on voit aussi comment est-ce que, ultimement, Jésus est le roi éternel. Donc, on a vraiment cette idée de continuité de la ligne de roi, du roi David. On voit aussi une promesse dans le psaume 89 et dans le psaume 2 aussi, d'une loyauté et d'une grâce perpétuelle de Yahweh à travers son Messie. C'est une annonce qui a été faite. Donc, le Messie devait apporter la grâce de Dieu parmi le peuple et il devait aussi, il va avoir une loyauté de la part de Yahweh, ce qui veut dire que même si le peuple se plante à cause du Messie, ça va fonctionner pareil. C'est une prophétie qui a été faite par David dans le psaume 89 et aussi dans 2 Samuel, les passages s'interchangent un petit peu. Ça nous parle aussi quelque chose de spécial. Le Messie va avoir une relation père-fils avec Dieu. On voit ça au psaume 89 encore, verset 27-28, et on voit ça dans 2 Samuel 7-14, où Dieu prend le temps de dire, je vais avoir cette relation spéciale-là avec ta descendance. Et on sait que ça s'est réalisé dans la vie de Salomon. Hein, Salomon a été devant Dieu, et Dieu lui a donné quelque chose de spécial qui est la sagesse, mais Salomon n'était pas le fils de Dieu. Okay? Et donc, on arrive plus tard, je vais vous dire aussi, le trône va être éternel, donc le trône de David va être sans fin, le Messie va régner éternellement. Il y a aussi un point qui était compliqué pour eux, qui était le suivant dans le livre de Zacharie et dans les promesses faites à David. Ça nous dit que le Messie ou sa descendance va construire un temple pour l'Éternel et qui va être dans le temple. Et nous, on sait que Salomon, le roi, a bâti le temple, mais il n'a pas été dans le temple à faire les choses. Et le prophète Zacharie nous parle comment le Messie va rétablir l'adoration, qui est la job du prêtre, pas la job du roi. OK? Et donc, et le dernier point, c'est que dans le fond, le Messie va apporter la paix, la sécurité à son peuple, au peuple d'Israël. Et donc, ça c'est ce que, puis là, dans le temps, les Juifs, là, c'était vraiment important pour eux, ça c'est ce qu'ils savaient du Messie. Et ensuite, c'était compris avec ces points-là. OK? Et les points suivants, la compréhension eschatologique, OK, ça c'est un mot compliqué, j'ai peut-être fait des fautes dedans, je m'excuse, mais la compréhension eschatologique, c'est la suivante, c'est que quand Dieu va revenir, quand Dieu va établir son royaume éternel, là on va voir le Messie, donc c'est vraiment pour la fin des temps. C'est quand le monde va être détruit, et là, David va revenir lui-même dans la résurrection, régner. Ça n'a pas rapport avec un autre Messie. Donc, vraiment, les gens avaient cette compréhension-là que ben, c'est pour plus tard, c'est pour la fin des temps. C'est quand le Seigneur va vraiment revenir, puis il va nous délivrer, puis à la grande résurrection. Et pour ceux qui sont vite là-dessus, vous savez que il y a plusieurs personnes qui ont questionné Jésus sur cette idée-là de grande résurrection, dont la femme dans Jean chapitre 4, quand elle vient puiser de l'eau et que Jésus la reprend, la femme samaritaine, je pense. Et elle dit à la grande résurrection, « Oui, je sais que je verrai toutes ces choses. » Et Jésus lui dit, « Ici, tu as vu plus que ce que tu espères. » Donc, il y avait cette idée-là d'eschatologie de fin des temps qui est centrée vraiment sur cette idée de paix, de sécurité qu'on trouve dans Ésaïe au chapitre 64, qui nous montre vraiment un monde parfait. Le lion avec la brebis, les serpents qui dansent avec des enfants. Vraiment cette idée-là. Et les gens ont pris ça et ils l'ont appliqué à la fin des temps. Il y a aussi l'idée d'une allégorie. Ceux qui ne savent pas, une allégorie, c'est une image. C'est une façon imagée d'expliquer une vérité. On est très bon avec ça, souvent les allégories, quand il y a des choses difficiles à comprendre. Et les gens prennent cette idée de psaume, du psaume 2, qui nous montre comment le Messie est le Fils de Dieu, qui ont une relation père-fils. Et puis là, ils prennent ça et ils se disent, c'est une image de la relation que Dieu a avec nous. Donc, quand on parle de Messie, c'est ça pour eux. Ensuite, le principe... Et c'était quelque chose qui venait, les deux points suivants, le résultat de la révolte des Asmonéens et la double responsabilité, c'est deux choses qui sont liées. C'est que dans le 400 ans de silence, là je vous le dis après, je vous promets ça va être moins technique, là, mais dans le 400 ans de silence, il y a eu une révolte qui est la révolte des Asmonéens, que c'est le peuple d'Israël s'est révolté contre un peuple, les peuples alentours qui les opprimaient, à travers un groupe qu'on appelle les Maccabées. Et dans ce 400 ans de silence-là, ce groupe-là qui s'appelle les Maccabées ont été combattre les nations autour, ont délivré Jérusalem, et là, ils se sont cachés sur la montagne de Jérusalem, ils ont combattu pendant presque 100 ans les nations autour, et pour respecter la loi, les rois, les chefs de guerre étaient rendus des rois prêtres, ils s'occupaient eux-mêmes du temple, et puis là, ça a fait vraiment du trouble à la nation. Et donc, cette idée-là de responsabilité, de double responsabilité, on la retrouve, comme je vous ai parlé, dans Zacharie. Comment est-ce que le Messie est appelé à rétablir l'adoration, à travailler pour le salut des gens et à présenter des sacrifices plus excellents que ceux faits par l'Alliance. On voit aussi cette double responsabilité-là en étant roi et prêtre. On voit que pour eux, ça marchait pas, parce que tu ne peux pas être roi et prêtre. Pourquoi? Parce que les prêtres viennent de quelle tribu? Les Lévites. Les rois viennent de quelle tribu? Judas. Donc, comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux ensemble? Eh bien, il y avait cette pensée quand même populaire qui disait qu'il va avoir deux messies. Il va avoir un messie prêtre qui va s'occuper du temple et il va avoir le roi. Et les gens ont vraiment commencé à cliquer là-dessus quand ils ont découvert Jean-Baptiste, le fils d'un Lévite, qui ramène le peuple à la repentance, et Jésus, qui est le descendant direct de Judas, qui vient vraiment... Et là, les gens se disaient, « Oh, on a notre Messie. » Et puis là, ils ont commencé à faire des liens qui n'étaient pas tout à fait là. Donc, voyez, alors on a toutes ces pensées-là, et puis là, on a leur vision de l'Alliance de Dieu. Et bien là, je vais prendre un temps, encore, je viens de vous garocher une couple de points en 9 minutes, mais je veux prendre le temps de vous parler de cette idée-là que le Messie, toutes ces idées-là étaient fausses. OK, c'est des idées qui étaient fondées sur la pensée du jour parce que la foi était faible en Israël. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. La foi était faible. Les gens étaient, comme je disais, sortaient d'un 400 ans de silence. Les gens cherchaient la face de Dieu. Et puis ce qu'il y avait comme leader, c'était les pharisiens, c'était les sadducéens qui étaient ancrés dans leur loi. Ils étaient ancrés dans toute leur vision des choses. Et puis, si vous tournez dans Actes chapitre 1 ou verset 6, vous allez voir que même les disciples étaient eux-mêmes pris dans cette idée-là de « le Messie vient pour faire X choses ». Vient, et dans l'idée des disciples, c'était « le Messie vient nous délivrer physiquement de l'oppression des Romains, il vient établir son royaume ». Mais dans Actes 1, chapitre 1, verset 6, les disciples demandent à Jésus « voici Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume ?» Ce n'est pas à vous, ni à personne, de savoir les temps dirigés par, choisis par mon Père. Donc vraiment, on a cette idée-là, cette réalisation-là, que on approche tout, et puis c'est un peu le point que je veux amener ce matin, on approche tout le Seigneur, on approche toute l'idée de Noël, l'idée de Messie, ces choses-là, avec des idées préconçues, qu'on a entendues à gauche et à droite. Et on se fait constamment bombarder de nouvelles informations, et c'était un peu la même chose dans leur temps. Okay, dépendant, vous parliez à qui, quel pharisien, quel sadducéen, quel scribe, il y avait probablement une de ces façons d'interpréter, parce que le Messie, c'était tellement une chose que les Israélites attendaient, et que quand ça vient pas, et puis que là, tu te ramasses dans un temps de silence, tu te ramasses dans un désert, tu commences à vraiment prendre des passages qui sont clés pour t'encourager, puis là, tu les allégorises. Donc, quand on parle de cette idée-là que Jésus, aujourd'hui, 24 décembre, à minuit pile, il y a 2023 ans, sans erreur, Jésus est né. Non, c'est pas vrai. Mais quand on parle de cette idée-là que Jésus est né, le Messie est né, ça vient briser toutes ces idées-là. Comprenez-vous? Et prenez le temps de regarder dans les évangiles. Jésus est très, très, très pointilleux, touchy en anglais, de s'approprier le terme Messie. Hein? Quand Pierre dit « Tu es le Christ, celui qui vient au nom de Dieu », qu'est-ce que Jésus lui dit? Il lui dit « Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, n'en parle à personne. » Parle pas, là. Dis pas ça. Le monde va virer fou. Et puis nous, on se dit, bah oui, c'est parce qu'il n'y a pas le goût d'avoir des grandes foules, il n'y a pas le goût d'être incapable de rentrer dans les villes, et puis ça lui est arrivé. OK? Ça lui est arrivé. Mais pas parce qu'il avait proclamé être le Messie. Et Jésus s'approprie le terme du Messie quand il accepte d'entrer dans la ville de Jérusalem assis sur un âne, qui est une prophétie de l'Ancien Testament du Messie. Et là, Jésus accepte finalement 3 jours ou une semaine avant d'être crucifié. Une semaine avant d'être crucifié, c'est là que le Seigneur Jésus accepte de s'approprier le terme Messie. Ça veut dire qu'il y avait une polémique, il y avait un combat autour de cette idée-là, et que si c'était mal fait, ou si c'était quelque chose qui était rushé, comme on appelle en bon anglicisme, c'est quelque chose qu'on essayait de faire trop vite ou pas bien, ou même qu'on essayait de le faker, ça allait pas marcher. OK? Et la raison pour laquelle je pars comme ça, c'est pour que, tu sais, on chante des chants, on proclame que Jésus est le Messie. Et, ben, il faut le faire. Okay, c'est quelque chose de vraiment important. Là. Mais il faut se mettre dans les bottines des gens qui sont là. Et puis, on va le voir plus tard, les impacts que ça a eu. Et juste avant, j'aimerais vous amener cette petite réalisation-là, qui je pense est importante. C'est que Dieu a fait une alliance. Et son alliance, on la retrouve dans tout l'Ancien Testament. OK, j'aimerais vous dire que le mot « alliance », dans l'original. Et puis là, excusez mon hébreu. C'est le mot Bérith, que je viens probablement de détruire, qui a été traduit en grec par diatheke, et vous allez me suivre, qui a été traduit en latin par le mot testamentus, duquel on a notre mot testament. OK? Donc, quand vous lisez Ancien Testament, Nouveau Testament, vous pouvez aussi lire Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Et voici la raison pour laquelle. Et donc, quand on regarde l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, ça se compose de trois livres pour les Juifs, qui étaient la Torah, les prophètes, les écrits. OK? Pour nous, c'est les 65 livres de la Bible qui sont divisés, les 37 livres de l'Ancien Testament qui sont divisés de façon différente. Mais pour eux, c'était ça. Et j'aimerais vous dire, la Torah spécifiquement, donc les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, est écrite de façon à ce que n'importe qui la lit, qui vit dans le temps de Moïse, sache que c'est une alliance. Et qu'est-ce que ça veut dire, une alliance? Voici les éléments d'une alliance, OK? Et ça, c'est important parce que je vous le dis, OK? Mais c'est juste pour que vous puissiez voir et prendre le temps, si vous lisez ces passages-là bibliques, de vous les approprier. Vous savez, alors une alliance, là, et puis ils ont trouvé dans les écrits des archéologues, puis là, je me souviens plus des dates parce que je suis en avant, mais il y a des archéologues qui ont trouvé des contrats. Et les contrats, c'est toujours entre une nation forte, une nation conquérante, et une nation faible qui a besoin d'être protégée. Qui est pensé à quand Josué se fait avoir par un peuple qui se déguise, là, puis là, ils viennent, puis là, ils font semblant d'être pauvres, puis d'être faibles, et puis là, il dit, nous avons fait alliance, protège-nous, puis nous, on va te donner des choses. Puis là, Josué, il fait, ben oui, je vais faire alliance avec toi. Et c'est cette même idée-là, et c'est ce que Dieu a fait avec Israël. Et puis, dans une alliance, vous avez eu le temps de lire, il y a cinq points qui sont toujours là. Et vous les trouvez dans la Torah, vous les trouvez dans l'Ancien Testament. Donc, il y a une identification de celui qui fait l'alliance. J'aimerais vous dire que c'est toujours le cas. C'est toujours le débiteur. C'est ça? Oui, le débiteur puis le bénéficiaire, c'est ça? Oui, donc c'est toujours le débiteur qui se présente en premier. Parce que c'est lui qui fait le bien, c'est lui qui est responsable de l'alliance. Et Dieu se révèle dans Exode au chapitre 3, quand Moïse lui demande « Qui m'envoie? » Qu'est-ce que Dieu répond? « Je suis. » Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu devient le « ego emi »,« je suis », devient celui qui se présente « Voici moi, je vais délivrer mon peuple. » Et cette alliance-là, elle est là depuis le début. Le deuxième point, c'est une introduction historique. Quels sont les bienfaits que la nation supérieure en force a fait pour la nation plus faible? Et Dieu, regardez à chaque fois qu'il se présente, « Je suis Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Je suis celui qui vous a sorti de l'oppression des Égyptiens. Je suis celui qui s'est montré au mont Sinaï. Je suis celui qui vous a donné cette loi-là. C'est moi votre... C'est ça. C'est moi qui s'occupe de vous. » Le mot est parti de ma tête, excusez. Ensuite, on a les stipulations. Donc ça, c'est les demandes de l'autorité en force pour offrir leur protection. Et là, on a les 10 commandements. On a le livre de Nombre, on a le livre de Lévitique, on a le livre de Deutéronome qui les redit tout encore. Dieu dit, voici ce que je m'attends de vous pour avoir ma protection, pour avoir ma bénédiction. Ensuite, on a une liste des témoins. Le livre des Hébreux nous dit que au mont Sinaï, le peuple entier était témoin. Les peuples alentours étaient témoins de toutes les merveilles que Dieu faisait. Et ça nous dit aussi dans Hébreux que les anges étaient témoins de cette alliance-là. Donc, il y avait plein de témoins pour venir valider que Dieu était en train de faire alliance. Et ensuite, il y a une liste des bénédictions et des malédictions qui sont encourues par le parti plus faible. Donc, si le parti plus faible essaie de se rebeller, voici ce qui va vous arriver. Si vous faites ce qui est promis, voici ce qui va vous bénir. Okay? Et ça, c'est là, constamment. Et c'est même une des raisons pour laquelle les Juifs sont devenus assez intenses avec cette idée-là, de cette alliance-là, de cette loi-là, parce que un point que Dieu avait mis dans la loi, c'était que si vous ne prenez pas congé, si vous ne faites pas le jubilé, si vous ne faites pas le jachère, si vous ne prenez pas votre sabbat, votre jour de congé pour aller adorer Dieu, ben, je vais vous obliger à le prendre. Et c'est ce qui est arrivé à la grande déportation. Ça faisait 490 ans que Israël n'avait pas fait de jubilé, qu'il n'avait pas respecté les sabbats comme il faut, qu'il n'avait pas libéré les captifs et fait ce qu'il avait promis de faire dans le livre des Nombres. Et qu'est-ce qui est arrivé? La déportation. Combien de temps a duré la déportation? 70 ans. Faites les calculs mathématiques. Vous arrivez au point de dire, ils ont été mis en déportation exactement le nombre de temps qu'ils avaient enlevé à l'Éternel. Pas plus, pas moins. Donc, les bénédictions et les malédictions encourues par le parti faible. Et quelque chose que je veux qu'on réalise ensemble ce matin, c'est que le Seigneur Jésus, quand il est venu, c'était pour faire une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui venait pas détruire l'ancienne, qui venait, et Jésus nous le dit, « Je ne suis pas venu afin d'abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. » Comment tu fais ça, accomplir la loi? C'est une loi, elle est là. Puis moi, si je respecte la limite de vitesse, je n'accomplis pas la loi. Je la respecte. Et si je ne respecte pas la loi et que je me fais voir par une personne en autorité, a.k.a. une police, ben je vais avoir à payer. Vous êtes tous d'accord? Et si je respecte cette limite-là, est-ce que j'ai des bravos? La police, vous passez une police puis vous roulez la limite, puis là, il est comme « bravo! » Mais non, ça n'a pas rapport. Il est juste comme « OK, t'as respecté, good job! » Et il y a cette idée-là qui vient que cette nouvelle alliance-là accomplit la loi. C'est quelque chose qui est impossible pour nous de le comprendre, mais on a regardé ensemble, Dieu a fait une alliance avec son peuple, et là, il en fait une nouvelle. On trouve tous ces éléments-là, je vous en ai parlé un peu dans l'Exode, et il y a une annonce qui est faite, et puis là, je vous promets, après ça, on va parler de Noël, là. Mais il y a une annonce qui est faite dans Jérémie, chapitre 31, et elle est réitérée dans Ézéchiel, au chapitre 36, où Dieu parle à son peuple et dit, « Voici, je vais faire avec vous une nouvelle alliance. Une alliance qui va être différente de la première. Voici, je vais pardonner vos péchés. Je vais les oublier. Je vais... » Ça, c'est dans Jérémie, chapitre 31. Ézéchiel, chapitre 36, nous dit, « Voici, je vais enlever vos cœurs de pierre et je vais vous donner un cœur de chair capable de vivre, de compatir et de vraiment être pleinement avec moi. » Et en plus, dans Ézéchiel 36, il nous dit, « Voici, je vais vous donner mon esprit. » Et sachez que c'était des paroles et des promesses qui sont incompréhensibles pour un juif. OK? Ça marche pas. Leur vision de comment l'esprit fonctionne, pour eux, là, c'est l'esprit vient, prend un homme et lui fait faire des choses exceptionnelles. OK? C'est pas donné at large. Et puis, nous, dans la Bible, on pense que c'était quelque chose d'assez commun. OK? Mais on a 2000 ans d'histoire environ entre Moïse et Malachie. OK? Ben, je dis ça puis je me trompe peut-être, là. Mais on a 1000-2000 ans d'histoire. Et puis, on a à peu près les 40 hommes qui ont écrit dans le Nouveau Testament qui ont eu des révélations. Et le reste du temps, on sait que les prêtres, les gens allaient au temple, et puis là, le Seigneur leur donnait des révélations un peu, mais une vraie révélation, un vrai homme habité par l'Esprit Saint qui prophétise au nom de Dieu, c'était pas commun, là. Et puis dites-vous que dans le temps de Jésus, là, ça fait 400 ans qu'il n'y en a pas eu. Ça fait 400 ans qu'ils sont mélangés, puis que là, il y a les pharisiens d'un bord, qu'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas si, le Messie, c'est genre la fin des temps. Et puis là, ils sont tous mélangés, là. Et puis là, il n'y a plus personne qui pense à cette promesse-là. Puis, c'est pas qu'il n'y a plus personne, c'est que cette promesse-là devient dure à croire, devient dure à appliquer. Ça devient compliqué d'essayer de voir ça parce que L'Esprit Saint n'est pas donné gratuitement. C'est pas là. C'est lourd pour le peuple. Et puis là, quand on prend le temps de regarder la nouvelle alliance en Jésus, on se rend compte que, à certains moments, Dieu nous fait un clin d'œil et il inspire les hommes qui ont écrit le Nouveau Testament, le Nouveau Diatéke, le Nouveau Testamentus, la Nouvelle Alliance. Il les a inspirés afin de nous donner un petit clin d'œil. Si vous lisez Jean chapitre 1, vous avez la présentation de qui est Jésus. Le commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, aucune chose qui sont sous le ciel n'a été faite sans elle. On a une présentation de qui est Jésus. C'est qui? Celui qui va faire l'alliance. Et après ça, on a les quatre évangiles qui nous montrent les preuves tangibles que Dieu a fait du bien à son peuple. Quand Jean-Baptiste envoie quelqu'un demander à Jésus, « Es-tu le Messie? » Qu'est-ce que Jésus lui répond? « Voici les aveugles voient, les boiteux marchent, les gens sont guéris. » C'est ça le signe que Dieu, que Jésus prend soin de son peuple. Si on prend le temps, quelles sont les demandes de Dieu dans la Nouvelle Alliance? C'est quoi ces demandes? La foi. Ayez la foi en Christ. Mettez votre confiance dans le Messie. Mettez votre confiance en Dieu. Donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur et je vais m'occuper. Vous savez ce qui est incompréhensible dans la promesse de Jérémie 31 et de Ézéchiel 36? Ce qui est impossible à comprendre, c'est que Dieu parle au « je ». Dieu parle au « je » et il n'y a jamais de « vous ». C'est une révélation de Dieu qui dit « voici, je vais vous pardonner vos péchés. Je vais changer votre cœur et je vais vous donner l'Esprit. » Cette alliance-là, cette nouvelle alliance-là qui est annoncée, on la retrouve en Christ. Et Christ, qu'est-ce que Jésus nous demande? Ayez la foi en moi. Et cette foi-là, elle vient pas de nulle part. Et on a plein de témoins. Je suis content qu'on ait chanté la chanson sur Siméon. Siméon est un des premiers témoins qui vient annoncer, dire « Voici, j'ai vu le Messie. » Dieu lui avait promis « Tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. » C'est la Bible qui nous dit, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Ça nous dit que Siméon était vieux, il avait 84 ans. Et 84 ans, en l'an zéro, là, c'est pas 84 ans aujourd'hui. Et Dieu lui avait promis qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Et à la seconde où il voit Jésus, ça nous dit, l'Esprit lui montra. Et puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réjoui. Et là, il a été un témoin, voici le Messie. Et Anna, qui est une veuve, que ça fait plusieurs années, qui est une vieille veuve, ça fait plusieurs années qu'elle est au temple, quand elle voit Jésus, elle aussi exalte le Seigneur et remercie Dieu qu'elle a vu le Messie. On a ici, qu'est-ce que Jean-Baptiste a annoncé quand il a vu Jésus? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mettez-vous dans les culottes du monde. C'est ça que j'essaie de communiquer ce matin. Mettez-vous dans les culottes du monde qui sont là, qui sont baptisés parce qu'ils veulent se faire pardonner leurs péchés. Et puis là, ils ont toute cette confusion-là. Il y a quelque chose de nouveau qui part. On a un prophète qui parle au nom de l'Éternel, finalement. Ça fait 400 ans qu'il n'y en a pas eu. Ça fait, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de génial. Et puis là, ton prophète dit, voici celui qui est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Voici l'agneau de Dieu. Voici votre Messie. Qu'est-ce que le monde fait? Ça dit qu'il y en a deux, trois, je ne me souviens plus, qui l'ont suivi, puis les autres sont restés avec Jean. Et puis là, il a commencé à avoir des chicanes entre les disciples de Jésus et les disciples de Jean. Puis tu as Jean et Jésus qui sont comme, on a la même job, différemment. Donc, le point que je voulais vous faire ressortir, c'est vraiment que la Nouvelle Alliance en Christ utilise un langage qui est vraiment semblable. On trouve toutes les choses. Je peux vous donner aussi d'autres petits points. Les bénédictions et les malédictions, savez-vous? on va encore un point plus loin. Les bénédictions qui sont encourues par l'Évangile, c'est que Dieu va pardonner nos péchés. C'est ça la bénédiction qui est encourue par la foi en Christ. Et la malédiction, elle vient du point suivant. Si tu n'acceptes pas Christ, tu vas être privé de la présence de Dieu pour l'éternité. Aucun salut sans Christ. Et ce matin, je vais finir par parler de la nativité, qui est vraiment un pivot. C'est que c'est, avant ça, là, c'est prends la loi, obéis et tu vivras. Jésus naît, on attend qu'il vive sa vie, il grandit, il vit une vie parfaite, et à la croix, là, tout est changé. Cette ancienne alliance-là, elle est là, mais Jésus dit, je l'ai accompli. Voici la nouvelle alliance. Crois en moi et tu seras sauvé. Crois en moi, je vais pardonner tes péchés. Crois en moi et je vais te donner l'esprit afin que tu vives. Crois en moi, je vais te sceller pour l'éternité. On a vraiment un pivot exceptionnel. Qui est Jésus? Qui est né? Quel est l'enfant qui est né ce soir? Le Messie. Marie, savais-tu? Non, elle savait pas. La Bible nous dit à peu près une dizaine de fois qu'elle était confuse et qu'elle a gardé ces choses dans son cœur, qu'elle était troublée dans son âme. Parce que Jésus venait et ça chamboulait tout. Ça chamboulait sa vie, ça chamboulait la vie de tout le monde. Donc, on a ces points-là. Et si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, là, il y a plusieurs versets, il y a plusieurs choses dans l'Ancien Testament qui sont un peu mélangées pour vous donner cette idée-là. Donc, tout le monde me suit. On avait des idées. Je vous montrerai pas la première page, là, mais il y avait des idées préconçues sur qui est le Messie, qu'est-ce qui s'en vient faire, et puis comment est-ce que ça va se réaliser. Pas grand monde qui croyait encore à un Messie vivant, palpable, touchable, un homme qui allait venir sauver son peuple. Et ensuite, on avait cette idée-là d'alliance, que les gens étaient centrés dans l'ancienne alliance. Et puis, comme je vous ai parlé un petit peu rapidement de cette révolte des Asmonéens qui avaient essayé de devenir des rois prêtres, puis de renverser les gouvernements autour, puis d'être des conquérants pour Israël, puis d'établir le royaume. Ça avait laissé une marque. Ça avait laissé une énorme marque. Les gens étaient là. Les gens qui s'appellent les messies, puis qui veulent conquérir, puis s'occuper du temple, on n'en veut plus. Il y avait vraiment des blessures dans le peuple. Il avait été opprimé. Puis quand les Maccabées ont finalement perdu, ils étaient dans une situation pire qu'avant. Parce qu'avant, il y avait une liberté quelconque, puis ça a pris des années avant qu'il y ait une paix. Là, il se faisait opprimer quand même beaucoup. C'est une raison pour laquelle les collecteurs de taxes sont tellement détestés. On avait vraiment cette oppression-là qui était là, qui avait un gros impact sur le peuple. Et donc, maintenant, on va parler de l'impact de Jésus. Alors, on a une naissance miraculeuse. C'est un point qui est important de le souligner, parce que Ésaïe, au chapitre 7, nous enseigne, vous voulez un signe, voici, je vais vous en donner un. La jeune fille deviendra enceinte. Une vierge deviendra enceinte. Et, savez-vous, les pharisiens ont utilisé cette idée-là. Comment est-ce qu'ils appelaient Jésus? En bon québécois, on le dira pas, là. Mais quand Jésus leur parle de « Vous vous glorifiez parce que vous avez Abraham pour père », qu'est-ce que les pharisiens répondent à Jésus? Voici, « Nous avons Abraham pour père. Toi, c'est qui ton père? » Hein? C'est qui ton père? On le sait que c'est pas Joseph. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Mm-hmm. Mais si tu étais un pharisien, t'avais une compréhension botchée de qui est le Messie, de qu'est-ce qui s'en vient. Ça fait 400 ans que c'est le silence. Tu veux pas te faire opprimer par Rome. Tu veux pas te faire détruire. Donc, quand le Messie vient, même s'il guérit tout le monde, même s'il fait toutes les autres prophéties, si t'as pas l'Esprit de Dieu, tu le verras pas. Puis ce point-là qui est annoncé dans Ésaïe au chapitre 7, voici, la Vierge deviendra enceinte. Quand il est rendu grand puis il commence à venir pointer tes péchés, tu dis, moi, mon père, c'est Abraham, toi, on ne sait pas c'est qui. Une bonne façon de dire, une petite insulte cachée. Hein, ça fait longtemps que quand on est fâché, on insulte les mamans des autres. On le voit dans le Nouveau Testament. Il y a aussi un autre point qui est intéressant. Si vous allez dans Michée, au chapitre 5, verset 1, souvent utilisé à Noël, ça nous dit que le Messie va naître où? À Bethléem. Pourquoi? Parce que c'est la ville de David. Oui, c'est simple comme ça. Et puis, on le sait que ça, les Juifs le savaient. Pourquoi est-ce que les Juifs le savaient? Parce que quand Hérode leur demande, où est-ce qu'il vient le nouveau? Où est-ce qu'il est censé naître le roi d'Israël? Qu'est-ce qu'ils lui disent? Bethléem. C'est là que Joseph a une vision qui lui dit, va-t'en, parce qu'Hérode veut tuer le petit enfant. Et donc ça, c'était quelque chose qui était connu. Et tout le monde savait que Jésus vivait à Nazareth. Confusion? Pourquoi est-ce que l'édit est arrivé? Pourquoi toutes ces choses-là? Parce que Jésus est né, devait naître à Bethléem. Et on a quelqu'un qui est né d'une vierge à Bethléem. Et ça, vous savez, on le dit souvent, là, mais les Juifs, j'ai pas d'autre mot, trippent sur les listes, les généalogies et tout ce qui est écrit hein, pour avoir t'es né où, t'as fait quoi, c'est qui ta famille, c'est qui tes choses. Donc, c'est facile, là je dis facile, là, entre parenthèses, là, mais c'est possible d'aller valider où est né quelqu'un dans le peuple juif. À cause que les Romains ont obligé tout le monde à aller s'inscrire en l'an à peu près zéro. Comprenez-vous le clin d'œil que Dieu fait? Si tu veux croire, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand ils sont mis face à leur péché par Jésus, qui a c'est un bébé qui naît, là, et il est en train de répondre à toutes les prophéties sur la naissance du Messie. OK? Et les gens sont capables d'aller valider ça. OK? Mais après ça, ça dépend qu'est-ce que tu vas croire. Et c'est là qu'on est, dans la naissance de Jésus qui est miraculeuse. Et on peut avoir aussi le principe, c'est facile de savoir que les parents de Jésus, c'est des descendants de David. C'est marqué dans les généalogies. Donc, on a tous les points possibles que quelqu'un pourrait vouloir. OK? Et puis, dans le fond, c'était mon deuxième point. C'est une naissance qui était annoncée d'avance, mais ensuite, une naissance qui est proclamée. Vous savez, on le dit souvent... quelle humilité du Seigneur Jésus d'être venu et d'être né dans une étable et déposé dans une crèche. Hein, c'est-tu pas l'humilité parfaite? J'aimerais vous dire, pousser la note plus loin, que même si Jésus était venu, qui était né dans des palais d'ivoire, déposé sur les plus grandes broderies, dans le plus beau des temples, dans la plus belle des places, ça aurait quand même été humiliant. Okay? C'est pas parce qu'il est né dans une étable que c'est humiliant. C'est parce qu'il est Dieu que c'est humiliant. C'est parce qu'il était éternellement en parfaite relation avec son Père dans les cieux et qu'il a pris, Philippiens nous dit, un corps de serviteur, qu'il est venu souffrir avec nous. Hébreu nous dit qu'il n'est pas ignorant de nos souffrances, lui qui a vécu sur terre, afin d'être en tout le parfait souverain, le parfait sacrificateur. Donc, même s'il était né dans le palais de Salomon, fait en ivoire, dans une crèche en or, entouré des plus grands chanteurs, ça aurait été humiliant pareil. Ensuite, normalement, quand un roi naît, il y a des chants, il y a des festivités, il y a de la joie dans le peuple. Hein? Il n'y avait rien de ça. Même principe. Qu'est-ce qui est arrivé? Les anges apparaissent à qui? À tout le peuple? Moi, il me semble, j'aurais fait ça de même. Tout le monde, tout le peuple, milieu de Rome, milieu de Jérusalem, une chorale là, une chorale là, toi tu chantes tel verset, toi tu chantes ça, let's go, on y va en même temps, solo de guitare dans le milieu. Tout le monde est au courant. C'est ça qu'il a fait? Non. Il l'a annoncé, honnêtement, si vous travaillez en marketing, c'est pas votre meilleur move, là. Il l'a annoncé à 3-4 bergers dans le milieu d'un champ. Ça nous dit pas que personne d'autre l'a vu. Mais ça nous dit qu'il y a juste 3-4 bergers qui sont allés au pied de la crèche le matin où Jésus est né. Et laissez-moi vous dire que ça ne devait pas être une petite adoration de rien du tout. Ça devait être quelque chose de dire, « Ah! Les anges ont chanté pour ce bébé-là. » Ils ont annoncé, « Voici un sauveur vous est né. Un fils vous est donné, en train de citer, encore une fois, une parole dans Ésaïe. Un sauveur vous est né, un fils vous est donné. » Nous, on est conscients aujourd'hui que ça veut dire que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Si vous ne croyez pas à ça, c'est correct. Mais c'est un gros clin d'œil dans la Bible. Un fils nous est donné. Dieu a envoyé son fils afin que nous ayons la vie. Et c'est annoncé, relation père-fils, hein? C'est dans l'Alliance. C'est dans les promesses que Dieu a faites au Messie. Ils auraient une relation père-fils. Et j'aimerais vous donner un autre petit point. Ça nous dit qu'au moment où Jésus est né, et puis là, je vais peut-être briser des cœurs, mais les mages sont apparus, sont pas à la crèche. Je sais que c'est le fun d'avoir plus de monde dans sa crèche à la maison, mais les mages sont pas apparus la journée où Jésus était dans sa crèche. Ça nous dit que, selon les croyances normales, ils ont suivi une étoile qui est apparue au moment de la naissance de Jésus. Et cette étoile-là les a amenés jusqu'à une maison, OK, où Marie était avec Jésus. Et c'est là qu'ils l'ont adoré. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de faire apparaître une étoile qui allait annoncer à tout le monde qui regarde les étoiles que le Messie était né, que le roi d'Israël était né et qu'il était là. Savez-vous, si vous êtes un petit peu comme moi puis vous tripez sur l'histoire, les Romains et les Grecs avaient une fable qui était qu'un guerrier ou un homme pouvait être tellement puissant, tellement important, avoir tellement de renom que les dieux seraient obligés de lui faire une nouvelle constellation, de créer des nouvelles étoiles pour lui. Et dans un but, moi je suis persuadé, mon opinion personnelle, dans un but polémique, ça veut dire de mettre les idées du monde à côté de la réalité, Dieu a mis une étoile placée pour que toutes les nations autour fassent « c'est plus grand que vous ». Ce qui se passe, c'est plus grand que vous. Et donc, on est là, on est à la nativité, on a tout ce pivot-là qui se passe, toute cette humilité-là que Dieu vient. Ça nous dit que les anges comprennent pas pourquoi Jésus est venu. Pour eux, c'est inconcevable. Et c'est vraiment cette réalité-là qu'on est en train de vivre ensemble. Et là, c'est un événement discret. Jésus, né dans une étable. Je sais pas si vous savez comment ça marche, mais d'habitude, après un accouchement, là, Marie est pas toute propre avec un halo autour de la tête puis de la paille propre. Puis, oh, Jésus! Hein, ça devait être messie un peu. Elle devait être contente que ce soit fini. Je sais pas pour vous, mais Joseph aussi devait être comme, ouh, OK, c'est fait. Entouré. Vraiment subtil. Mais ça change. Et la puissance venait pas de ce que Jésus a fait. Hein, la puissance venait de ce que Dieu a choisi dans son ultime omniscience de faire autour. Le témoignage, les témoins que Jésus est le Messie, c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire nous-mêmes. C'est un message, un étang que Dieu a mis sur le fait de dire « c'est moi qui le fais ». Donc quand on pense à Noël, moi, je suis quelqu'un d'intense dans la vie, vous me voyez aller, là. Mais quand on pense à Noël, moi, c'est à ça que je pense. C'est à ça que je pense. C'est à quel point Dieu vient délivrer notre âme, nos pensées et tout. Et ça a eu un impact énorme. Ah, oh, j'ai oublié de le mettre. Pas grave. Donc, ça a eu un impact énorme. C'est le Messie s'occupe d'un pardon parfait. Jérémie 31, 34 nous dit, « Voici, je pardonne vos péchés, je ne m'en souviendrai plus. » Dans l'Ancienne Alliance, qu'est-ce que ça disait? Ça disait, voici, viens, offre ton sacrifice afin de couvrir tes péchés. Il les effaçait pas, il les couvrait, afin d'éloigner ma colère du peuple. L'Ancienne Alliance, elle venait à couvrir les péchés, elle te faisait toffer un an de plus jusqu'à ce que tu te représentes devant Dieu. Constamment, le peuple d'Israël était en train, selon ce que Dieu nous dit, de tester sa patience. Et là, ils couvraient leur péché, puis là, ils repartaient, puis là, ils couvraient leur péché. Puis là, Jésus, par son sacrifice, et ça nous le dit, hein, je vais pardonner vos péchés, Jésus s'occupe d'un pardon parfait. Ça nous dit dans Romains chapitre 8, voici donc, il n'y a maintenant aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. On peut aller plus loin, si vous, le verset le plus connu de la planète, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En voulez-vous d'autres? Ouvrez une concordance. Bon, ça c'est celui-là que j'ai préparé. Ensuite, le deuxième point, le Messie donne l'Esprit sans compter. On voit ça dans Ézéchiel 36. Si je vous amène dans Luc, chapitre 24, verset 49, il dit, voici, je vous donnerai mon esprit. Si on va dans Actes, chapitre 1, verset 8, ça nous dit, encore une fois, Jésus annonce que lorsqu'il s'en sera en allé, voici, je vous enverrai le Saint-Esprit. Jean, chapitre 16, verset 7, Jésus nous dit, il est préférable que je m'en aille afin que vous puissiez recevoir l'Esprit, car je pourrai vous envoyer le Consolateur. OK? Donc, cette idée-là, là, que le Messie donne l'Esprit sans compter et que le Messie s'occupe d'un pardon parfait, là, c'est les points qui sont dans la Nouvelle Alliance. C'est les points qui sont comme... C'est un angle mort pour les Juifs. C'est un angle mort pour tout le monde qui lit l'Ancien Testament. Mais pour nous, on se dit, ben voyons, ils sont bien niaiseux. Ça me semble c'est évident. Mais comme je vous ai parlé au début, on a la révélation progressive. Là. On a pas mal plus d'informations que eux. On n'est pas dans des traumatismes de guerre que si on ose parler du Messie, le roi juif, on va se faire détruire par les Romains. On a toute cette idéologie-là que des fois on oublie. Et puis ça fait pas 400 ans qu'on vit dans l'idée que c'est une allégorie, que c'est pour la fin des temps, que c'est des promesses que Dieu a accomplies à travers ses prophètes. Nous, on est capable de voir à quel point Jésus, à partir de cette naissance-là, là, le focus du Seigneur change. D'un focus de l'Ancienne Alliance à « Voici mon Fils ». Soyons reconnaissants, pour terminer, dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, je vous invite à y tourner. Ce qui est un peu la raison, ce matin, que je vous partage tout ça, c'est que, on va l'avoir. On est en Philippiens, chapitre 2. Ah, ben je l'ai marqué. Vous pouvez tourner pareil. Philippiens, chapitre 2, les versets 2 à 11. Bon, ouais. Oh, merci. Philippiens 2, 5 à 11. Fatigué. OK. Ça nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » Là, le point qui m'intéresse. « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. » Souvenons-nous ce matin qu'on est ici, 24 décembre, dans un pays d'abondance, on est bien. Et on est ici, on peut prendre un temps où tout le monde autour va accepter que vous parliez de Jésus. Va accepter que vous annonciez la mort, la naissance du Messie. Va accepter que vous puissiez prendre un temps pour simplement dire, « Hey, je suis tellement reconnaissant à Dieu d'être venu. Je suis tellement reconnaissant à Dieu d'avoir accompli toutes ses promesses, les promesses qu'il a faites par le prophète Ésaïe. » Et si vous allez à Ésaïe chapitre 9, au verset 5, Dieu nous parle des noms. Comment ce Fils-là, ce Messie-là sera appelé. Et ça nous dit qu'il est le Sauveur, Dieu puissant, l'Éternel. Et donc, on a un point ici, on peut vraiment se réjouir ce matin de ce que le Messie, Dieu lui-même, est venu. Comment Dieu nous a pourvu un Sauveur. Et qu'à travers ce Sauveur-là, on a accès au plus grand des pardons, à la plus belle chose qu'on peut avoir et qu'on doit constamment se rappeler ces choses-là. Sans le Seigneur Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Noël, il n'y a pas de croix. On est au pivot de la grâce. Et ce pivot-là, c'était un angle mort. C'est pour ça qu'il n'y a personne à la naissance de Jésus. Ça ne devrait pas être un angle mort dans nos vies. N'ayons pas peur d'annoncer que oui, Jésus est né d'une vierge. Plein de gens qui font comme ça, tu peux pas. Pas grave. Jésus est né d'une vierge. Pourquoi? Parce que Dieu l'a annoncé. Et Dieu l'a annoncé, ça commence dans Genèse au chapitre 3, quand il dit à la femme, à Ève, voici ta postérité. Et là, il ne parle pas à Adam. Il parle juste à Ève. Clin d'œil, clin d'œil. Ésaïe chapitre 7, une vierge deviendra enceinte. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui travaille, sans la part d'aucun homme. C'est Dieu qui s'occupe de votre salut, c'est Dieu qui s'occupe de mon salut. Et puis on peut tous l'annoncer, c'est ultime, c'est vrai, c'est là. Jésus est né à Bethléem, pourquoi il vivait à Nazareth? Parce qu'il y a un roi romain qui a pété un câble puis qui a dit, moi je veux que tout le monde aille dans sa ville natale. Et c'est là que Jésus est né. Ces choses-là, ça se fait pas tout seul. Vous avez devant vous les preuves. Maintenant, remerciez Dieu que vous avez pu croire. Et puis, annoncez-le. Réjouissons-nous ensemble. Là, en passant, je suis content. Je suis content, c'est Noël. J'aime Noël, mais j'aime aussi cette réalité-là et cette grâce-là que Dieu nous fait. Prions. Il y avait un autre. Oh. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour... Oui, le fait que tu te sois fait chair. Oui, le fait, Seigneur Dieu, que à cause de toutes ces choses, tu accomplis cette nouvelle alliance. Tu viens briser les idées préconçues qui étaient là dans ton temps. Tu viens même nous laver, nous purifier de nos péchés d'une façon qui était impossible sans toi. On veut te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu n'as rien gardé. Tu t'es donné entièrement. Tu as pris une forme de serviteur. Et que tu as vécu dans l'humilité, la pauvreté, Seigneur. Mais ton Père qui est dans les cieux nous a donné un grand témoignage en envoyant les anges chanter pour toi, en faisant apparaître ton étoile, en te rendant toute la gloire. Seigneur Dieu, on veut se rappeler aussi à quel point tu es patient envers nous. On veut se rappeler, Seigneur Dieu, à quel point tu nous aimes, à quel point ça a eu un prix pour toi, Seigneur. Tu as sacrifié ton Fils afin que nous ayons la vie et pour ça, on veut t'en être éternellement reconnaissant. On te remercie, Seigneur Dieu, d'avoir fait ce pas envers nous, Seigneur, afin de nous donner accès à toi. Bénis ton saint nom, Seigneur Jésus. Et bénis-nous ensemble en ce réveillon de Noël, en toute cette journée, en ces vacances, Seigneur Dieu. Donne-nous de la sagesse dans nos rapports. Vraiment, Seigneur Dieu, aide-nous à t'adorer avec nos vies. Pour ta gloire, qu'on te prie, Seigneur.